With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Salut à tous et bienvenue sur Séances Radio, c'est l'heure de fin de séance, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, vous le savez, émission spéciale Noël les amis, puisque pour cet épisode 25 qui clôt l'année 2018, eh bien nous avons décidé de vider notre hotte, n'est-ce pas mes petits lutins que je salue. Ça, ça va Pierre?
Oui, je sais pas pourquoi on se marre, est-ce qu'il y a un double sens à cette phrase?
Il y a toujours des doubles sens.
Toujours des doubles sens, effectivement. Hein. Ceux qui nous rejoignent ne le savent pas peut-être, mais il y a toujours des doubles sens dans chacune des paroles, surtout celle d'Yann. Ça va?
Moi, il n'y a que des doubles, triples sens. Bah oui, c'est vrai, écoute, envahi par l'esprit de Noël, je ne suis que joie, amour et bière.
On est bien, là, à côté d'un petit poêle électrique, au Hurling Pub, évidemment. Et nous avons également Julien Munoz. Comment vas-tu?
Ça va, ça va.
La forme?
On va dire ça, ouais.
Ouais, très bien, ok. Alors, bon, ça va être un peu notre calendrier de l'avant pour vous accompagner jusqu'à cette fin décembre, puisque nous avons eu la chance de voir les principales grosses sorties ciné du mois, excepté Aquaman. Donc autant vous dire que nous avons un programme très chargé. Au menu, Spider-Man New Generation et Mortal Engines, tous deux déjà sortis en salle. L'Empereur de Paris, Mary Poppins et Bumblebee. C'est pas mal déjà, hein?
Gros programme. Ah ouais, mais émission spéciale pour la fin de l'année. Hein.
Bon bah écoutez, on attaque tout de suite sans plus tarder avec les avis des spectateurs sur Spider-Man. C'est parti, jingle.
Bon, cette mission c'est quoi?
C'était génial, c'est vrai, graphiquement au départ c'est un peu surprenant, on avait l'impression de voir flou, mais au final c'est vraiment très agréable de voir tous ces univers hyper différents qui viennent ensemble avec autant de d'humour que de diversité. C'est vrai que c'est un peu rafraîchissant, on redécouvre Spider-Man au final, beaucoup d'humour, une bande son de ouf, franchement c'était cool. Ouais,
moi j'ai trouvé très bien, les graphiques je les ai trouvés vraiment intéressants, l'histoire aussi. Je vous avouerai que j'avais quelques inquiétudes au début par rapport au fait que c'est un dessin animé. Mais non, très bonne surprise, franchement, je suis content. Je le recommande, je vais peut-être même retourner avec un autre ami, en fait.
Franchement, non, j'ai été vraiment surpris par ce dessin animé. Donc, beaucoup d'action, beaucoup de moments sombres, des moments d'émotion aussi. On a l'impression, en fait, que c'est une BD, en fait, en animation.
Je m'attendais à ce que ce soit barré et je suis content, ça l'est. Il y a des moments sur la fin, je veux pas en parler, mais je m'attendais pas à ce que ce soit visuellement aussi impressionnant, quoi. J'essayais de faire le gars costaud, mais oui, il y a forcément une petite larme à un moment.
Tous les moments sur la famille, il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça. Donc, s'il n'y avait pas de moments tristes, il n'y aurait pas de Spider-Man, il ne deviendrait pas un héros.
Bon, bah, vous l'entendez, hein, aucun avis négatif pour Spider-Man New Generation. Alors, en ce qui me concerne, moi, c'était un projet que j'attendais vraiment beaucoup. Je l'ai un peu suivi, le développement, comme nous tous autour de cette table. Les premières bandes-annonces m'avaient énormément excité, mais j'avais quand même cette petite crainte sur le mélange des techniques d'animation. J'avais peur que ce soit un peu l'overdose. Et je dois dire que j'ai trouvé ça formidable. Hein?
Non? Ah, c'est que du kiff.
Alors, bah, tu vois. Alors, vas-y, Ilan, commence.
Bon, bah, écoute, voilà, moi, j'ai kiffé. comme toi, j'étais très, très enthousiaste par rapport au projet, surtout au vu des premières images. Les mélanges des différentes techniques d'animation m'intriguaient plus qu'autre chose. Et voir la production des mecs comme Phil Lord et Chris Miller se réapproprier une figure aussi mythique que Spider-Man. Voilà, ça pouvait qu'exciter les gamins qui étaient en moi et qui avaient adoré Lego Movie. Donc en fait, c'est que du bonheur.
C'est exaltant.
C'est génial, c'est drôle, c'est méta, mais sans en faire trop. C'est extrêmement respectueux de l'esprit de Spider-Man. L'histoire est sympa. Elle fait un peu penser justement aussi au jeu vidéo Spider-Man Dimensions qui était sorti il y a quelques années, qui était pas un bon jeu vidéo, mais dont la particularité était qu'on pouvait incarner différentes incarnations de Spider-Man dans des dimensions différentes, dont Spider-Man noir qui est ici doublé par Nicolas Cage, son meilleur rôle.
Ah, Nicolas!
Depuis longtemps, ouais. Nico s'amuse comme un petit fou.
Ah, mais nous aussi, on s'amuse comme des petits fous.
Enfin, faut pouvoir résumer le projet. En fait, je crois que c'est un film fait par des gens qui s'amusent.
Ouais.
Pour amuser des gens, en fait. Ce que n'était absolument pas Homecoming. Et ce que je pense que le prochain, c'est quoi,
Far Away From Home.
Et que ça ne sera pas non plus, c'est que c'est, enfin, je t'ai coupé, Hélène, désolé.
Oh,
mais
ça commence bien.
Ouais, bah, toujours.
On est comme ça.
Voilà. Ouais,
non mais bon. Ouais, ouais, c'est comme ça.
Pas les bonnes habitudes.
Et non, c'est un projet assez étonnant parce que moi aussi j'étais vachement intrigué depuis des mois. On en avait déjà parlé quand on a fait notre podcast sur Avengers 3, ouais. Batman Ninja. Mais ce qu'il y a, c'est que je me suis dit, est-ce que ça va pas être un sous-produit vidéo, tu vois, avec le risque, parce que tu dis, en fait, pourquoi Sony s'est embêté à faire ce film qui est tout ce que n'est pas les gros films Marvel de d'habitude, c'est-à-dire il y a de la prise de risque. Ce qui, d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve étonnant que tout le monde trouve le film génial, c'est parce que c'est un film qui casse les codes, rien qu'en termes de même d'animation. Donc moi, j'entends souvent des gens dans mon entourage, tu vois, si j'essaie de leur montrer un film en stop motion, ils me disent. Non, moi j'aime pas trop ça en fait, j'aime pas, ça fait bizarre ce style d'animation, j'aime pas trop, c'est trop différent. Et là, c'est quand même très particulier l'animation qui est proposée, c'est très changeant, ça prend des parties pré-artistiques quand même qui sont très culottées, et pourtant tout le monde adhère à ce film.
Mais tu vois, c'est ce qu'on entend dans le micro ouais, trottoir, ouais. Là, c'est qu'il y avait pas mal de sceptiques aussi sur le fait que ce soit un dessin animé, ils étaient pas hyper emballés, puis ils ont pris leur pied quoi.
Alors attention, c'est pas un dessin animé, il n'y a pas de dessin.
Film d'animation,
tu m'as compris. Oui, bien sûr.
Mais parmi moi, les critiques que j'entendais favorables au film, il y a un truc qui revient très souvent concernant le film, c'est qu'il est considéré un peu comme une sorte de manifeste, on va dire, sur la création, même qui a presque un geste politique, si tu veux, parce que justement une telle prise de risque sur les techniques d'animation mélangées comme ça, une telle liberté, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, surtout associé à Marvel, et c'est vrai qu'on peut considérer le film comme une sorte d'ode aussi à la création, et qui est totalement libéré de tous les carcans dans lesquels restent enfermés tous les autres, pas seulement les films Marvel, mais les films de super-héros en soi, et même le film d'animation. Et ça prouve aussi la bonne santé, on va dire, du studio, du département animation de Sony, parce qu'ils ont
ImageWorks, c'est ça, hein,
Sony Pictures Animation, parce qu'ils ont aussi souvent pris les risques. L'un des exemples qui me revient vraiment à l'esprit le plus souvent, c'est Monster House,
qui est chouette,
qui est pas un film d'animation, qui est un film en performance capture.
Voilà,
c'est vrai. C'est vrai.
Enfin, avec des éléments animés, oui, malgré tout, l'image synthèse.
Qui a été produit par le département animation de Sony. Là aussi, il y avait une prise de risque et une véritable volonté d'humaniser des choses qui, a priori, ne l'étaient pas via l'animation, la performance capture, en tout cas des techniques non pas live. Et c'est aussi ça qui est très appréciable dans ce projet.
Non, mais déjà, il y a une volonté de raconter une histoire,
oui,
quoi.
Tout à fait, oui.
Avec des personnages qui ont un parcours, qui ont une trajectoire. Tout ce que aujourd'hui manque les films à la Marvel, hein, au sens le plus général. Enfin, je veux dire, tu vois, on a eu Venom avant, et quand tu regardes Spider-Man, tu te dis, mais pourquoi vous appliquez pas à vos films en live ce que vous faites là? Parce que, bon, d'accord, le film a coûté même pas 100 millions. C'est la moitié des gros blockbusters, tout ça. Mais, vous voyez bien que ça marche. Ça plaît, j'ai l'impression que le film va être un joli petit succès, peut-être même plus qu'on s'y attend. Et j'ai envie de dire aux gens, mais si vous kiffez tant ce film, pourquoi vous aimez alors les Homecoming, les Venom, tout ça?
Alors attention, sont... raccourci, c'est peut-être pas les mêmes les personnes qui vont voir Homecoming et qui se prennent un pied d'enfer devant New Generation, là, devant ce Spider-Man-là, sont peut-être pas le même public déjà, et ont peut-être aussi un regard critique sur Homecoming aussi, hein, tu vois, peut-être qu'ils se disent justement en voyant New Generation, ah ouais, quand même, il y a pas photo, là vraiment on a un vrai film Spider-Man avec des moments exaltants, avec
une mythologie,
avec de l'émotion en plus.
Oui.
Donc, Pierre, mais si. Allez à moi. Du
oui.
coup, si
allez
je peux,
à moi.
Ouais, c'est parti. Avec ma voix un peu cassée encore. Du coup, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce film, que j'ai trouvé absolument génial. Hein. J'ai passé un très 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 bon moment. Alors. Si je voulais vraiment pinailler, je trouve que par exemple le plan du méchant qui est le caïd Fisk, je trouve qu'au final ses motivations, on a essayé un peu de l'humaniser, je trouve que ça tient pas très bien la route, et puis qu'à la fin ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe.
Bon, c'est la base du personnage.
C'est la base du personnage, mais je trouve pas que ce soit hyper exploré, hyper intéressant, mais c'est pas très grave, parce que si tu veux, l'ensemble du film est vraiment très bon. Y a des personnages secondaires qui ont vraiment la classe. T'as ce chasseur qui s'appelle Prowler.
Le rôdeur
qui a une espèce de design moitié Batman, moitié Black Panther. Il fonctionne hyper bien, c'est une super menace. Et puis y a ce, par- parti pris visuel très puissant avec ces incursions comme ça de texte, de graphisme, de différents types d'images de synthèse. Ça marche très très bien. En fait, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand j'ai vu le générique, j'ai fait très attention au générique, quand on regarde le nombre de personnes qui sont créditées à l'écriture ou qui gravitent autour de l'écriture du film, on a 18 personnes. C'est un film qui est écrit à 18 mains.
C'est
un film
qui
est réalisé par 3 réalisateurs. À la direction artistique, t'as au moins une quinzaine, voire une vingtaine de personnes différentes qui ont travaillé sur ce film. Donc, en fait, c'est quelque chose qui... A priori, dans ma conception du cinéma, je n'apprécie pas. J'aime quand les films sont les films d'une personne, les films d'un auteur, j'aime
la culture réduite, quoi.
Non, mais si tu veux que ce soit une personne qui explore sa vision des choses. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a aussi probablement la main du studio qui avait besoin de reprendre la main, justement, sur la franchise Spider-Man qui se porte pas forcément très bien avec ce qu'on a vu de Venom et des projets abandonnés. Et donc tout et aussi Phil Lord et Chris Miller qui ont participé à l'élaboration du film. Donc en fait, je me disais, ce film, c'est un travail collectif. Voilà, c'est une œuvre collective. C'est pas le film d'un réalisateur ou d'un scénariste. C'est une grande œuvre collective. Tout le monde y a apporté un peu du sien. Il y a pas mal d'artistes que j'aime beaucoup et j'étais très ravi de voir qu'ils ont participé au film. Ils me postaient sur leur compte Twitter des éléments qu'ils avaient réussi à intégrer dans la narration. Il y avait un animateur, il disait ça c'est moi. Un autre, il dit ce détail dans le décor, ça c'est moi qui ai apporté ça. Donc en fait, c'est une grande œuvre collective et je pense que c'est ça qui fait que ce film a autant d'énergie, autant de choses à montrer, autant de choses même à prouver presque. C'est cet amour finalement du public, de tous ces gens qui sont probablement fans de Spider-Man, fans de super-héros, fans de comics et d'animation et qui en ont peut-être marre de voir cette espèce de nivellement par le bas qu'on se tape au cinéma depuis des années. Et qui du coup ont libéré tout leur amour. Alors je sais pas si Sony leur a mis des bâtons dans les roues, j'en sais rien, mais il n'empêche que le produit final est hyper énergique, ça déborde d'amour pour la franchise, et c'est là où moi qui pareil n'aime pas tellement cet humour méta, ces gros clins d'œil aux spectateurs, wink wink, t'as compris la référence, et ben là ça marche quand même, et parfois c'est même très drôle, ça fonctionne très bien, parce qu'en fait derrière, c'est ça, on sent un véritable amour de Spider-Man, et c'est pareil, moi j'avais abandonné la lecture des comics Spider-Man quand j'étais plus jeune, parce que je commençais à avoir marre de toutes ces histoires de... J'ai abandonné au moment où ils étaient tous des clones les uns des autres, c'est pas Spider-Man, c'est Scarlet Spider, et puis après il y a toutes les dimensions, puis il y a Miles Morales qui est le héros de ce film-là. Et en fait, ça m'a fait aimer vraiment ce côté dimension, et au final, ce film au collectif parle d'une histoire au collectif, avec tous ces personnages qui se rejoignent pour résoudre cette grande aventure un peu rocambolesque, un peu farfelue, et ça marche très très bien, et franchement, on passe un super moment, et je termine juste, pardon, sur le fait que ça fait du bien de voir ça au cinéma et sur un grand écran.
Clairement, ouais. Ça c'est sûr.
Et parce que ultra généreux comme film.
Ultra généreux, parce qu'en fait, tous ces films de super-héros d'animation, Batman Ninja qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui était génial, il est sorti en Blu-ray. Donc soit ça sort en VOD, soit c'est des trucs un peu à la Lego Batman que personnellement j'ai trouvé détestable. On n'a pas vraiment ça au cinéma sur les grands écrans, donc faut vraiment foncer, faut pas le louper.
Je peux pas dire mieux.
Ouais, non, mais je pense qu'effectivement pour moi c'est un film important déjà. C'est un film important dans le sens où je pense que avec ce type de médium pour un super héros, ça permet déjà beaucoup plus de liberté créative.
C'est fait pour ça. C'est comme Astérix. On s'en fout de voir des acteurs. C'est bien de le voir en film d'animation, quoi. Mmh.
Et puis oui, pardon, Julien.
Non, je disais peut-être que pour pousser les gens à aller le voir, c'est que si vous connaissez pas tous les trucs des comics avec Miles Morales, si pour vous Spider-Man, ça reste Peter Parker. Point. C'est accessible. En fait, moi, je connais pas du tout.
Alors oui, c'est ça. Faut préciser que c'est Miles Morales qu'on suit.
Voilà.
Et en fait, personnage.
On va trouver plusieurs Spider-Man de d'autres dimensions. Et en fait, bon, le scénario est très malin, arrive très bien à poser les bases de son univers et les règles, en fait. Donc, ce qui fait qu'on n'est jamais perdu. Donc, franchement, que les gens qui peuvent avoir un doute n'aient absolument pas peur. C'est vraiment accessible. Moi, je connais pas les comics de cette période-là. Donc Mike Morales, je sais pas d'où il vient, je sais pas c'est quoi son parcours.
C'est tout récent,
Ça fait quand même quelques années, mais oui,
Mike Morales.
Donc on a Gwen Stacy qui est pareil, qui est une Spider-Man dans un autre univers, mais tu arrives à absorber tout ça d'un coup, et vraiment super, quoi.
C'est super scène d'action.
Ouais, non, mais super scène d'action. Et puis, je veux dire, quand Miles Morales il met son costume final de Spider-Man, moi j'ai eu la chair de poule.
Oui, carrément.
Est-ce que ce qui s'est arrivé il y a très longtemps, ça.
Ils n'ont pas peur d'iconiser leur personnage. Ouais, voilà. Ils n'ont pas peur de déconner, de faire de la blague méta, parce que c'est ce qui plaît aujourd'hui.
Mais en même temps, d'être super sérieux, d'être émouvant.
Il y a des vrais moments d'émotion qui marchent très très bien.
Toute la relation avec l'oncle de Miles Morales, moi j'ai
pas super touchant.
Sans rien dire. Mais il y a vraiment des liens familiaux, même notamment avec son père, que moi je trouve très touchant. Et vraiment, je.
Et puis c'est beau.
Si ça marche, alors toute la vie.
Visuellement, ça claque.
Et même au moment où tu dis, bon, tu peux tiquer un peu sur un détail d'animation, tout ça, mais tu dis, finalement, tu l'absorbes très très vite, tu te dis, ah ouais, quand même. C'est frais, t'as de la nouveauté, alors que tu t'es habitué finalement à des films tellement uniformisés, tellement standardisés, qui perdaient finalement ce que c'était l'âme de Spider-Man. Parce que le film est beaucoup sur qu'est-ce que c'est Spider-Man en fait.
Spider, arrêtez de dire Spider.
Spider, ok, excuse-moi.
Attends, Thomas tout à l'heure il a dit engine mortelle là.
Mortal engine.
Spider-Man. C'est un film qui t'explique ce que c'est Spider-Man. Ça veut dire qu'avec cette idée de tout le monde peut être Spider-Man, parce que c'est pas une idée de tout le monde, il suffit de mettre le costume et ça y est, tu es Spider-Man, mais c'est que finalement ce que représente Spider-Man, c'est le grand pouvoir. Oui, non, mais c'est une entité collective en fait. C'est le bien pour tous, c'est à la fois c'est New York, mais finalement c'est toutes les villes du monde, c'est quand même un héros qui a un esprit communautaire. Et donc le fait de tous ces personnages Spider-Man qui luttent ensemble, qui sont réunis, voilà, tout est cohérent en fait dans le sujet et dans le projet.
Oui Pierre, non, tu voulais dire un truc.
Pour terminer, j'ai une petite reco. Pardon, excusez-moi. C'est que je disais, c'est un grand projet collectif et tout le monde y a apporté un peu sa patte. Mais il y a quand même quelqu'un qui a imprimé le visuel du film bien plus que les autres, qui est un artiste que j'aime énormément, qui est un artiste qui s'appelle Alberto Mielgo, qui est pas très connu du grand public. En gros, le graphisme global du film, c'est très inspiré de son travail. Il a été engagé comme consultant visuel. Il est mentionné au générique en tant que tel. Les décors de New York sont magnifiques. Cet aspect, ces lumières, tout ça, ça vient de son boulot. Et je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Il est vraiment très très fort. Ça me fait plaisir de le voir dans ce film. Il avait notamment été engagé pour un autre projet d'animation qui malheureusement a été annulé après une saison, qui était la série dérivée de Tron Uprising. Il y avait deux cadors à la tête de la direction artistique, Robert Vallée et puis lui, Alberto Mielgo. Et autre chose qui m'a fait très plaisir, c'est que le design du Caïd est repris des travaux de Bill Sienkiewicz, qui est quand même l'un des plus grands artistes de comics de tous les temps, qui a travaillé beaucoup sur Daredevil et Elektra, qui fait des très beaux, très très belles BD. Et voilà, c'est ce Caïd énorme, disproportionné, tout carré, monstrueux. Et pareil, j'ai trouvé ça génial de voir ça sur grand écran.
C'est hautement recommandé, évidemment. C'est bon, on a terminé sur le film.
Oui, allez le voir, faites-vous plaisir.
Okay, très bien. Et ben, on attaque avec Mortal Engines, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Ne pas confondre avec Engine. Voilà, qui est un film sur les maladies virales.
Bon, je le trouvais pas mal. Il y a du spectacle, c'est sympa. C'était ce que j'attendais. L'univers un peu steampunk, ça change un peu de d'habitude. J'avais vu une bande-annonce il y a longtemps et j'en avais pas revu. Et j'ai décidé cet après-midi d'aller voir un film. Et donc j'ai été un peu même surpris par l'univers, donc c'était parfait. L'actrice principale, l'héroïne, est bien. J'ai bien aimé. Et ça se tient bien. De l'action tout le temps.
Très sympa, un peu innovant, un peu spécial parce que j'ai choisi ce film-là par hasard. Voilà. C'était divertissant, mais c'était pas grandiose, quoi. Les acteurs sont pas géniaux et voilà.
C'était bien. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé. Hein. Les effets spéciaux, les personnages, l'univers. J'ai trouvé ça génial. Le spectacle, non, c'était beau. Non, c'était vachement bien fait. Hein. On est pris dedans. Ça passe à une vitesse en plus, le film. On est vraiment dans le film. C'est très, très bien. C'est une belle histoire, hein. Franchement, c'est une belle histoire avec les machines et c'est très bien.
Allez, une belle histoire avec des machines, c'est ce que retient Asina de Mortal Engines. Mortal Engines.
Oui, non, mais allez, on te l'accorde.
Mécanique fatale au québécois.
Mécanique fatale.
Ça sent la production Joel Silver des années 90 avec Cindy Crawford. Hein, non, un peu. Mécanique fatale. Donc, que dire? Alors, moi, pour ce film-là, je suis un peu partagé. Il m'embête un petit peu parce que autant je trouve que c'est très intéressant dans l'univers qu'il propose, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, un univers steampunk avec ses grosses citadelles comme ça qui s'affrontent, cet univers post-apocalyptique, production Peter Jackson, on le rappelle. Autant les personnages, je les trouve, mais vraiment anti-charismatiques. Et qu'est-ce que j'en pense d'autre? Je trouve aussi qu'en termes de direction artistique, dans ces fameuses citadelles, ça m'a beaucoup fait penser à Waterworld parfois d'ailleurs.
Oh, tu veux dire que le film prend l'eau?
Pas mal. Je sais pas, mais j'ai envie de le défendre quand même. Il y a beaucoup de qualité dans ce film, vraiment. Vraiment. Mais après, je sais pas ce que vous en pensez, donc vous allez me dire.
Bah, moi,
on va discuter. Alors, on va préciser que Pierre n'a pas vu, donc on va essayer de lui vendre quand même.
Hein? Allez-y, je vous écoute.
On va te vendre nos engins.
Ça vole haut.
C'est la dernière de l'année. T'as dit on se lâche, on donne tout. Moi je donne tout.
Je ne l'entendais pas comme ça en fait.
Ah merde. Bon bah écoute, c'est pas grave.
Alors tant pis.
Qu'est-ce que t'as pensé, toi? Moi je trouve le film plutôt attachant.
Merci. Ah Julien.
Non, je trouve le film a des défauts sur lesquels je reviendrai après, mais ce que j'ai aimé effectivement l'univers qu'il explore est intéressant. Je trouve que visuellement il se montre à la hauteur de cet univers pour un budget qui comparé à d'autres blockbusters pas énorme. On est sur quasiment du 100 millions.
Une centaine de millions.
Donc, ouais. Voilà, soit
mon argent de poche quoi.
Voilà, mon argent de poche mensuel à peu près. Donc je trouve que pour un tel budget, on voit l'argent à l'écran et ça fait plaisir à voir. L'univers est plutôt bien exploité. Je trouve que c'est vraiment un film à voir au cinéma, à voir sur grand écran, parce qu'il a une certaine démesure qu'il assume.
Il a de l'ampleur,
parfaitement.
Ouais,
donc il y a une ambition visuellement. Je veux dire, c'est un film qui a de l'ambition et qui se montre à la hauteur de cette ambition. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La première partie, moi, j'ai été tout de suite entraîné. J'ai trouvé la première partie tout de suite assez rock'n'roll. On est tout de suite plongé dans.
Ah, c'est vrai que l'ouverture dans
l'univers, etc. Enfin, on a l'impression de voir un vrai film d'aventure steampunk, c'est une sorte de croisement. Alors, toute proportion gardée, attention messieurs, toute proportion gardée, ne me tuez pas. Une sorte de croisement entre, on va dire, Indiana Jones et Mad Max.
Oula.
Pour les plus jeunes, et toute proportion
alors,
gardée.
J'y ai pensé. J'ai pensé à Mad Max, pas Indiana Jones, mais Mad Max.
Oui, mais pour le côté aventure.
Oui, et puis Junkie XL qui signe la BO.
Voilà.
Malheureusement, peut-être non.
Ça va. Donc la première partie est assez sympa. Le problème, c'est que dans sa deuxième partie, le film est, sans mauvais jeu de mots, sur des rails, sur les rails vraiment du film young adulte quoi. Il propose rien de bien nouveau. On est sur la même mécanique des jeunes héros qui vont se rebeller contre une dictature en place, etc. Bref, David contre
ceux qui nous écoutent, young adulte, c'est les grands films d'aventure action young adulte, c'est quoi? C'est
Hunger Games, Divergence, tout ça, Labyrinthe. Toute cette mode-là, ouais.
Tous les films un peu de dystopie qui mettent en scène des adolescents, en fait, d'un monde qui se rebelle contre un monde adulte.
Oui. Alors après Young Adult, je ne sais pas, parce que les bouquins originaux, j'ai fait une minose.
ça va se payer, ça.
Ouais, je le sais bien. En France, sont sortis chez Folio Junior. Sont sortis chez Folio Junior, donc je ne sais pas si on peut considérer ça comme du Young Adult. Bon. Ouais. En tout cas, toujours est-il que dans sa deuxième partie, le film est beaucoup plus balisé. Il y a même, fait beaucoup de pieds, on va dire, au marché chinois avec.
C'est une espèce d'allégorie en ce moment. Parce que c'est.
C'est pas gênant.
Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une espèce d'allégorie de Hollywood qui veut percer le marché chinois. Donc parce que à la fin le grand climax du film, c'est quand même les méchants qui veulent détruire la Grande Muraille de Chine en quelque sorte. Hein. J'essaie de pas trop spoiler. Donc c'est parce que on le sait, le marché chinois est un marché en tout cas en matière de cinéma, il y a un marché en pleine expansion depuis des plusieurs années, que le cinéma hollywoodien ne cesse de faire de l'œil à ce marché qui est moins restreint chaque année.
Il y a déjà pas mal de coproductions. On va parler de Bumblebee, c'est une production chinoise.
Oui, mais donc tous les films américains ne peuvent pas sortir en Chine, mais même si ça s'ouvre de un peu plus chaque année, et donc on fait des productions sino-américaines comme La Grande Muraille, ce genre de trucs qui finalement ne j'ai l'impression, ne plaisent pas à grand monde, que ce soit du côté chinois ou du côté occidental. Mais par contre, on fait des Pacific Rim 2 ou ce genre de choses, où on met des personnages asiatiques en valeur, qui sont très intelligents, qui sont un peu supérieurs aux personnages occidentaux, qui ont le droit, eux, d'avoir des armes à feu. Et donc, y a, dans Mortal Engine, il y a une chinoise qui a des armes à feu, et qui est la seule, pratiquement.
Et qui a des lunettes noires.
Préciser que quand on fait un film avec une production chinoise, on a un cahier des charges obligatoire à respecter.
C'est donc les Occidentaux ne peuvent pas avoir d'armes à feu.
Ils ne peuvent pas être plus intelligents que les acteurs chinois, n'ont pas le droit d'avoir des armes à feu, sauf s'ils sont dépositaires de l'autorité, parce que les gens du peuple n'ont pas le droit de s'armer, parce que bon, on est encore dans une dictature.
Il y a juste les armées qui ont des armes à feu.
Voilà, et c'est pour ça que dans Transformers, Mark Wahlberg avait un flingue en forme d'épée, parce que sinon c'était insupportable.
Mais alors deux choses. Savoir si effectivement est-ce que c'est une coproduction chinoise.
Je suis pas sûr.
Et venant de Peter Jackson, ça me paraît quand même bizarre.
On est plus dans la production néo-zélandaise. Et deuxièmement, c'est est-ce que dans le bouquin original, moi j'ai pas lu le bouquin original, est-ce que dans le bouquin original,
c'est pas déjà c'est présent. Ouais.
Voilà, c'est ça à savoir.
Moi, ce qui est très drôle, c'est que dans le film, les Chinois ont la terre, un peu la terre promise avec toute la terre d'abondance. Et donc la vieille Europe, qui est représentée par Londres au début du film, essaye de piquer les richesses de la Chine. Ouais. Donc il y a une allégorie quand même qui m'a sauté aux yeux.
Surtout dans le contexte colonialiste actuel. Oui, mais voilà, moi ce qui m'a gêné dans le film, pour revenir un peu, on va dire, aux fondamentaux, c'est on a dit une démesure visuelle qui est encourageante et qui est enthousiasmante, mais une espèce de paresse au niveau de l'écriture qui se ressent surtout dans sa deuxième partie.
Les dialogues au secours, quand même.
Et puis le retournement, le twist de fin qu'on révélera pas, qu'on a senti venir une heure avant.
Et il paraît qu'il y a un beau personnage de monstre.
Oui, qui est incarné par Stephen Lang.
En performance capture, ouais. Shrink, c'est ça, hein,
ouais, je crois. Shrike. Et c'est Stephen Lang qui l'incarne.
Ouais. Et il est bien,
Même le design est sympa. Mais on le voit pas assez, on sent qu'il a pas été, il est pas assez.
Enfin, il est pas écrit, en fait. Moi, je suis désolé, mais juste pour donner mon ressenti, moi, c'est un film, à part l'ouverture du film, qui est un peu la première bande-annonce qui avait été diffusée. Après cette intro quoi de 10 minutes, moi je me suis complètement désintéressé du film. Hein. Je vous avoue, les personnages sont. On présentait toujours l'héroïne avec son foulard. Et je me suis dit, elle a l'air cool, ça va être une héroïne badass, tout ça. Et au début du film, donc, on va dire 10 minutes après l'intro, elle enlève son foulard. Et je me suis dit, oh mon Dieu, elle a pas de charisme.
Moi, j'ai une question. J'ai levé la main.
Je peux dire une connerie?
Non, j'ai une question parce que ça m'intriguait pas mal dans les bandes annonces. Le truc, c'est qu'on vit dans un univers post-apocalyptique dans lequel les villes ont été, les villes entières, les agglomérations urbaines ont été mécanisées et sont sur roues, sont des espèces d'immenses vaisseaux qui parcourent le monde. Et je me demandais ce que ça, comment c'était traduit à l'écran. Est-ce que ça avait de la gueule? C'est Londres, par exemple, sur roues.
Ce n'est exploité que dans l'intro, en fait.
Parce que c'est un peu du jamais vu sur grand écran, ça.
Non, ça c'est du jamais vu. Et je veux dire, il y a une direction artistique qui assez inégale, mais qui globalement quand même apporte des bonnes idées. Mais le problème, que cette idée, donc on a des villes mouvantes dans un monde totalement aride, tout ça, ce n'est exploité que dans les 10 premières minutes. Non, après, on n'en fait plus référence et on est plus dans les airs, dans le monde souterrain, dans ce genre de choses, dans des trucs finalement plus, je vais pas dire plan-plan, mais dans des trucs plus conventionnels du récit apocalyptique ou enfin post-apocalyptique, ce genre de choses. Et ça, vraiment, je trouve que c'est le truc qui m'a frustré énormément, c'est de me dire, mais moi j'avais envie de voir ces villes bouger, ces villes s'affronter. Un peu, enfin oui,
comme on a parlé sur les champs en ce moment, les villes qui s'affrontent. C'est ça que t'avais envie de voir, hein. Ça, le gilet jaune.
Je me suis dit, c'est dommage, il n'y a pas de costume où les mecs sont habillés tout en jaune et ils se rebellent contre l'établishment. Mais non, mais.
Ok.
Voilà, ça reste une frustration parce que, en fait, je trouve que le film rentre tellement dans les standards de la fiction pour young adult mais vraiment du début jusqu'à la fin, c'est que ce soit des personnages ou des situations, bah non, franchement, moi je vois pas là où le film se distingue, juste par rapport par une direction artistique qui apporte quelques idées, mais même dans sa mise en scène, qui reste une pauvreté. Le film est réalisé par Christian Rivers qui est de chez Weta. Ceux qui ont regardé les bonus du Seigneur des Anneaux et du Hobbit dans les versions longues seront qui sait, parce qu'il intervient énormément.
Il vient des effets spéciaux.
Il a été oscarisé pour King Kong. Il a été réalisateur de seconde équipe sur le Hobbit aussi.
Mais tu vois que c'est un mec
fidèle depuis une vingtaine d'années.
Tu vois que le film est un film fait par un technicien en fait, et pas par quelqu'un qui a une vision, qui s'est approprié, qui aurait pu s'approprier le script de Peter Jackson, Watch et Boyens, mais qui reste, moi je pense, vraiment pas très en dessous de ce qu'ils ont pu produire avant. Vraiment, que ça soit dans la caractérisation, qui est vraiment très très pauvre. Quand t'as le personnage de méchant qui
Hugo Weaving.
Non, pas Hugo Weaving, mais même Hugo Weaving qui est en complet sous-jeu, qui dit je trouve qu'il cabotine même pas, je trouve qu'il est là, moi je suis là pour vous faire plaisir, mais franchement votre truc j'y crois pas. Vous aurez le minimum syndical quoi. T'as le mec qui convoite la fille que le héros veut au début, qui a une heure de retard sur nous. Donc elle découvre que son père est le méchant une heure après que nous on l'avait déjà découvert.
Là tu fais du spoil hein, quand même.
Non.
Allez doucement.
Non mais on sait direct que.
Non, nous, on le sait, mais je veux dire on découvre qu'il y a un film. Mais je vois ce que tu veux dire
attends, j'avais pas fini. Donc ce personnage qui a un enfant de riche qui est un faillot quoi. Finalement ce personnage il ne sert qu'à un moment de failloterie. Mais il est présent pendant tout le film, mais tu sais pas pourquoi. Parce que il sert à rien. Et c'est juste sa caractérisation, c'est juste le faillot de service qui est trop bête, quoi. Et je me suis dit, franchement, venant de Peter Jackson, qui a réussi à donner de l'âme à des méchants dans Le Seigneur des Anneaux, je me dis quand même, c'est. Moi, je peux pas pardonner ça parce que c'est Peter Jackson. Moi, j'attends quand même beaucoup plus d'un mec comme Peter Jackson. Ça viendrait de quelqu'un d'autre, je veux bien, mais là, moi,
après, quel était son degré d'implication dans le film, quoi, c'est ça.
Le mec a écrit le film. Il l'a produit. Il y a ces sociétés des effets spéciaux qui sont derrière. Il y a Christian Rivers. J'imagine pas que le mec ait laissé ça de côté en disant vas-y Coco, fais ton film. Moi je dis rien quoi.
Non, je pense qu'il était assez impliqué. Mais moi j'ai deux petits bémols sur.
Pour terminer.
J'ai
fini ma bière et il faudrait le rechercher une autre.
Sur ce que t'as dit. je trouve que le film ne rentre pas tant dans les standards des films young adultes à la Hunger Games, à la Divergente, même s'il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, l'histoire d'amour qui est entre les deux jeunes héros ne prend pas autant de place que dans les films que j'ai précités. C'est peut-être aussi là-dessus que je trouve qu'il se distingue un peu. Il est un petit peu plus subtil là-dedans. Et concernant justement tous tes reproches vis-à-vis du film, je pense que s'il savait pas quoi faire de film, il savait pas si ça allait donner lieu à une franchise, il savait pas si ça allait être un one shot. Tu sens à des moments qu'il tâtonne sur comment faire de ce film. Il y a la volonté d'en faire un divertissement, mais est-ce qu'on va en faire un one shot ou est-ce qu'on va en faire le premier d'une licence? Voilà, on sent ce tâtonnement, ça se ressent dans l'écriture et dans la structure du film.
Ok, Mortal Engine. Vous savez quoi, je
Mortal
vais dire.
Mortal Engine.
Voilà. Engine mortelle, ouais, vas-y. Ah.
C'est quoi, Mécanique Fatale est en salle en face de Spider-Man. Bon, deux films quand même intéressants. Bon,
c'est deux divertissements.
Il y en a un plus que l'autre, mais.
Bien sûr, voilà. Mais c'est deux divertissements.
On va quitter l'univers post-apocalyptique pour Londres, les copains, puisqu'il y a Mary Poppins qui nous attend, qui sort le 19 décembre. C'est parti.
Alors j'ai trouvé que c'était un petit peu long quand même, 2 heures. Mais bon, après on passe un bon moment, juste les chansons sont un peu longues. Et parfois il y a un goût un petit peu douteux, quoi, un peu flashouille. Surtout sur la scène du musical justement, voilà.
Bah trop Broadway, trop flashy, un peu de longueur. Et en plus à chaque fois il essaie de nous refourguer toutes les mêmes scènes, danse, chansons que dans le vieux film. Et bah il n'y a pas vraiment de nouveauté quoi, c'était attendu. Et en plus je trouve au niveau de la musique... Tu retiens aucune chanson, enfin c'est pas marquant, t'as pas envie de les rechanter après. Et en plus, t'as pas le thème musical de l'ancien film qui était super bien.
Les parties animées un peu ratées, je trouve.
C'est quoi ce truc de mettre dans le dessin animé de la méchanceté? C'est quoi les personnages méchants? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Elle est censée transporter les mômes dans un univers super magique et tout. Je comprends pas cette partie de l'histoire là. On se demande ce que c'est son objectif dans le film. Enfin, dans le premier film, elle vient pour réparer une famille, et là, dans celui-là, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est quoi le sujet du film, quoi? En plus, elle se mélange trop à la vie normale des personnages, alors que dans le premier, elle intervient que pour apporter la dimension magique. Et là, du coup, je trouve ça bizarre.
Emily Blunt, franchement, elle transcende le film. En fait, tout repose sur elle, je trouve.
Superbe, très digne, très classe.
Superbe, très digne, très classe, elle fait le film. Je suis pas loin de penser la même chose qu'Alice concernant Emily Blunt dans le rôle de Mary Poppins. Et j'irai même plus loin. Alors je sais pas si je vais me faire beaucoup d'amis autour de cette table, mais j'ai bien aimé ce Mary Poppins. J'y allais pour la battre, hein, sincèrement. Mais j'ai été agréablement surpris parce que Rob Marshall, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un mec qui vient de Broadway, c'était un metteur en scène. Et il a pris le parti justement de faire de cette suite un film, comme une pièce de Broadway en fait, avec des tableaux qui se succèdent et qui des très beaux tableaux d'ailleurs, je trouve. Emily Blunt, bon, génial, mais après je sais pas si Ilan, avec qui j'ai vu le film, parce que Pierre et Julien ne l'ont pas vu, donc on va écouter vos questions, mais je sais que Ilan et moi avons vu le film ensemble. Ilan est resté assez mystérieux sur son ressenti.
C'était deux salles, deux ambiances, et pourtant on était dans la même salle. Tu veux vraiment mon ressenti? Ok, alors je vais te donner une analyse du film, une grille de lecture qui...
Attention, il retrousse ses manches.
Qui ne concerne que moi, mais qui sera amené à faire autorité dans certains cercles. Pour moi, le retour de Mary Poppins, c'est...
T'es lourd.
Il la garde depuis quelques semaines.
Ouais, hein, grave. C'est un film sur une nounou qui est à bout et qui se réfugie dans la drogue et donne du LSD au gamin qu'elle garde. Attends. Non, parce que premier tableau quand même. La première fois que...
Attends, t'as pas aimé, donc c'est ça que...
Non, tu vois.
Là, tu veux me clasher, là.
Ouais, je vais te clasher, là, c'est le gros clash. Non, c'est ma petite analyse. Dis-toi, la première fois que les gamins vont dans un monde magique, donc ce qui est récurrent dans les Mary Poppins, ils plongent dans un grand bain. Donc déjà, la première fois, je me suis dit, mais est-ce qu'elle est pas en train de les noyer, les gamins? Parce que ça va pas devenir un truc super glauque, etc. Et les gamins voient des figures de personnes qu'ils ont vues dans le monde réel. Et entre chaque tableau, tu vois que les gamins sont surexcités, sont en sueur. Enfin, tout ça, tout indique les signes des mecs qui sont en manque. Donc, ils ont pris trop de drogue. C'est un film qui, pour moi, est un peu sous LSD.
Ilan, sois sérieux, s'il te plaît. Parce que là, tu vois, mon verre, il me reste une gorgée. Je pense qu'elle va finir dans ta tronche.
Ah ouais, carrément. Bon, alors moi, j'ai pas été aussi enthousiaste que toi. Je trouve le film plaisant, et ce qui me fait mal à dire d'un film de Rob Marshall, parce qu'il a quand même fait Nine, et depuis Nine, c'est un mec...
C'était dur, Nine.
Ouais, mais il a fait Chicago, les gars, je suis désolé.
Oui, c'est nul.
Oui, non, bon, c'est pas nul.
Oui, mais bon, un Chicago ne peut malheureusement pas remplacer un Nine, si tu veux.
Quand il a fait un Pirates des Caraïbes.
Ça, c'était nul.
Des Caraïbes, etc. Donc, effectivement, c'est un film dans la tradition de Broadway, avec
du musical,
des tableaux,
ouais.
Voilà, avec des tableaux qui ressemblent beaucoup à ceux du film original.
Bah ouais,
il y en a qui ressemblent beaucoup, qui sont dans. Il y a les mêmes motifs. Bah si tu veux, il y a le mélange live animation.
Ah oui, ça, d'accord, bien sûr. Il y a les mêmes passages obligés, on va dire.
Il y a les passages obligés. Il y a le petit numéro des cheminots. Pardon.
Des allumeurs de réverbère.
Voilà, des allumeurs de réverbère. Bon, tous les petits trucs comme ça, tous ces motifs qu'on retrouve d'un film à l'autre. Sauf que moi, contrairement à d'autres films estampillés Broadway que j'ai pu voir, il y a aucun numéro musical qui est resté en tête, si tu veux.
Sérieusement?
Bah non, aucun. Il y a aucune. J'ai pas moi le super fragili, machin.
Super califragilis. Alors, les dossiers. Ça, c'est la musique.
Non, mais d'accord. Mais même en termes de numéros musicaux, à part le numéro des allumeurs de réverbère, il y en a aucun qui m'est resté en tête. Attends. Ah non, aucun.
Emily Blunt, qui dans le monde animé, à un moment donné, devient une espèce de meneuse de revue. Le numéro est quand même vachement cool et
ouais,
super beau.
Ça m'a quand même fait penser à Nine. C'est une espèce d'autocitation à Nine. Non, mais Emily Blunt est très bien. Emily Blunt est géniale en Mary Poppins. Elle incarne parfaitement le personnage. Elle a la classe, elle a tout ce qu'il faut, le bagout, tout ce que tu veux. Sauf que, sans trouver le film mauvais,
c'est un film qui ne m'a pas fait grand effet parce que je trouve que justement il y a rien qui reste en tête. Tu passes pas un moment désagréable. Effectivement, ça fait le job. Il y a des numéros bien chorégraphiés, tout ce que tu veux. Mais je veux dire, si je veux des numéros bien chorégraphiés, je me mets le DVD de Lord of Dance, quoi.
Non, mais je suis. Alors,
est-ce qu'il y a des chansons? Par exemple, Thomas, toi qui as vachement aimé, est-ce qu'il y a des chansons que tu serais capable de fredonner maintenant, que tu retiens aussi bien que l'original?
Non, ah bah. clairement non, mais c'est pas pour autant que j'ai passé un mauvais moment dans le film. Attends,
j'ai pas été enchanté, quoi, comme je pouvais devant The Greatest Showman, par exemple.
Ou comme dans l'original.
D'accord. Alors, qu'on soit bien d'accord, en termes d'émotion et de musique, c'est aux abonnés absents.
On est d'accord.
Là, c'est quand même un peu une des bases de Mary Poppins.
Mary Poppins, c'est une des bases. Moi, c'est un de mes films de chevet, Mary Poppins, vraiment. Maintenant, c'est pas pour autant vraiment que j'ai passé un mauvais moment devant le film parce que j'ai aimé le parti pris musical de Rob Marshall et c'est ce que j'étais venu chercher en un sens, tu vois.
Ouais, mais limite, si tu veux, des fois, moi, j'ai eu l'impression de voir les chars qui passent Euro Disney toutes les heures dans Main Street ou des choses comme ça. Tu vois, j'ai l'impression de voir un peu ces numéros. Je grossifierai avec beaucoup plus de moyens, tout ce que tu veux. Mais pour moi, c'était. Voilà, je sais pas comment te dire, c'était un peu un cosplay de Mary Poppins, quoi.
Oh,
bon. Et est-ce que le film joue sur la nostalgie? Parce qu'on sait que Disney a beaucoup joué sur ce sentiment, que ce soit pour les Star Wars, que ce soit pour.
Et déjà sur Mary Poppins, parce qu'ils avaient déjà fait un film sur l'écriture de Mary Poppins.
Qui apparemment est complètement faux historiquement.
Non, j'ai pas trouvé de nostalgie. Par contre, t'as quand même.
Si.
Non, mais il joue pas là-dessus. Si tu veux, c'est pas son fond de commerce.
Est-ce qu'en fait, on te resserre la même sauce, mais javelisée, quoi.
Ah, parce que moi,
je suis pas d'accord.
Attends,
moi, je suis pas d'accord en termes de production et en termes de spectacle.
J'avais cette question.
Il fout pas de ta gueule.
Si je peux me permettre, la même sauce. Moi, j'avais l'impression de ce que j'ai vu, de ce que j'en ai entendu. Qu'en fait c'était un remake qui faisait semblant d'être une suite, parce qu'au final c'est exactement la même chose, la même trame, les mêmes passages. Cette fois c'est pas des comment on appelle ça, les mecs qui nettoient les cheminées,
des ramoneurs.
Pardon, j'ai pas de cheminée, je suis désolé.
Tu connais un ramoneur
dans un appart. Cette fois c'est pas des ramoneurs, c'est des mecs qui allument les lampes dans la rue. Il y a encore les cerfs-volants. Elle va pas voir son oncle pour dîner au plafond, mais elle va voir sa cousine pour dîner au plafond.
Meryl Streep.
En fait, au final, c'est exactement la même chose, les mêmes passages. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. En tout cas, j'ai pas vu le film. De ce que j'en ai vu, des bandes annonces, des interviews, des extraits, etc. C'est les mêmes trucs.
Bien sûr.
Simplement, on le fait un petit peu version 2018. Et du coup, moi, ce que je me demandais, c'est mais quelle est la légitimité de ce film? Parce que si au final, il ne fait que plus ou moins remaker en moins bien l'original, ça sert à quoi?
Oui, mais alors ça, il faut.
À part faire du pognon pour Disney, bien sûr.
Ça, faut poser la question directement à Disney, parce que quand tu vois leur line-up, de toute façon, on sait très bien.
Mais toi, par exemple, qui a aimé. Parce que, étant donné que l'original, c'est grosso modo la même chose, mais en 10 fois mieux.
Mais c'est ce que je viens de dire.
Qu'est-ce que t'aimes dans ce film, finalement, si c'est la même chose, mais en moins bien?
Le parti pris musical Broadway. Que je n'avais pas dans le premier. Des tableaux, des beaux tableaux, une succession
oui,
de tableaux.
Parce que moi, le côté enchanteur du.
Oui.
Ce que tu gagnes en Broadway, si tu veux, en musicalité entre guillemets, dans ce remake suite, tu le perds en enchantement. Et Mary Poppins, c'est aussi ça, c'est aussi l'enchantement. Enfin, pour moi, en tout cas, ça représente.
Il y a des passages où j'ai été transporté, où j'ai trouvé vraiment qu'il y avait de la fantaisie.
Du coup, sur la fantaisie, je me permets encore une fois d'intervenir. De ce que j'ai vu, alors encore une fois, c'est difficile pour moi de juger, mais j'avais l'impression que ce côté très théâtre, très scène, Broadway, numéro musical sur une scène, faisait que l'intégration avec les séquences d'animation était peut-être pas si intéressante que ça, qu'il n'y avait pas tellement d'interaction entre les différents personnages. Et deuxièmement, c'est que Mary Poppins, comme dans le premier film originel de 1964, elle emmène les enfants dans des mondes imaginaires, et qu'en fait, dans ces mondes imaginaires, d'après ce que j'ai compris, il y a l'apparition d'un méchant.
Oui.
D'un antagoniste, ça veut dire qu'en plus Mary Poppins amène les enfants dans un environnement où il y a un méchant.
Alors c'est ce qu'effectivement
qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement incohérent.
Mais pourquoi ce serait incohérent?
Pourquoi elle amène les enfants dans un endroit où il y a un danger?
Mais alors,
ça veut dire qu'elle a aucune maîtrise là-dessus. C'est pas elle qui fait de la magie.
C'est une, si tu veux, c'est une sorte, ce méchant qu'on voit dans cette partie animée, pour moi, c'est une sorte d'allégorie de la, du banquier interprété par Colin Firth, et qui est une angoisse aussi pour les gamins, parce que faut, on n'a pas parlé de l'histoire, mais les, ça se passe 20 ans après. On suit Jean et Michel, Jeanne et Michel, pardon, qui sont toujours donc dans cette maison, et qui sont sur le point justement de perdre leur maison. Voilà. Et les gamins vont être en mode un peu intrépide, et ils vont essayer justement de tout faire auprès du banquier. Enfin, ils vont mener leur enquette quelque part pour éviter. Je grossis. Non mais tu vois ce que je veux dire. Ils vont essayer justement de tout faire pour garder cette maison. Voilà. Ils vont voilà. Et du coup, ce méchant que l'on voit dans cette partie animée est une allégorie donc de Colin Firth, comme je le disais. Et moi, ça m'a pas gêné justement que ce soit une espèce de comme ça, comment dire, une chimère entre guillemets pour ces gamins qui sont angoissés à l'idée de perdre leur maison.
Non mais d'accord, mais ok, mais ce qui est d'autant plus contradictoire quand tu connais la résolution des problèmes des enfants, parce que je trouve que c'est un film qui est extrêmement symptomatique de son époque, pour son côté un peu lave plus blanc que blanc qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi pour ce petit message de fin que je révélerai pas, qui est très comment dire, très
tu
capitalistique.
Ouais, tu la pousses.
Non, je la pousse pas. Très capitalistique, et qui m'a beaucoup fait penser au message de fin de Alice au pays des merveilles de Burton. De Alice au pays des merveilles de Burton, c'était ah tiens, allons voir ce qui se passe en Chine, le retour de Mary Poppins. C'est un autre truc où en fait on te dit que bah c'est plutôt bien d'investir. Donc t'as cette peur de l'argent roi, mais en même temps c'est un outil de résolution. Donc c'est très
alors
très...
que l'original disait exactement l'inverse. Hein.
Voilà.
Et donc, se moquait des banquiers.
Et donc là tu l'as pas du tout, parce que le banquier que t'as effectivement c'est Dick Van Dyke, qui reprend un des deux rôles qu'il tenait dans l'original, et effectivement le discours n'est plus le même. Et c'est pour ça que je dis que c'est un film qui est très symptomatique de son époque. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait un peu sortir de ce retour de Mary Poppins, même si je conçois qu'il y a une exécution dans les numéros qui est parfaite, et je trouve que c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour les gamins qui n'ont pas vu le premier Mary Poppins. Why not?
Ah non, montre-leur l'original.
On est d'accord.
C'est intergénérationnel, l'original.
Non mais autant que ça leur donne envie, s'ils n'ont pas vu, s'ils ne connaissent pas du tout le personnage de Mary Poppins,
ça
leur donne envie de voir l'original.
Non, c'est juste évidemment.
Non,
c'est dictature, c'est tu leur montres l'original, point.
Bon, j'ai rien dit.
Allez, tout est dit.
Non mais faut serrer la vis un peu, quoi. Je veux dire, faut les mener droit.
Mais s'il y a un truc positif qu'on peut trouver là-dedans, ce serait juste si ça pouvait.
Bon, allez, Mary Poppins, c'est en salle le 19 décembre. Et en face, nous avons donc le retour, le grand retour de Vidocq. Hein, et autour de la table, eh bien, il n'y a que toi qui l'as vu, Ilan. Donc tu vas nous en toucher deux mots.
Bah oui, moi j'ai pris mon chapeau haute forme et ma plus belle veste pour aller voir Vidocq, qui revient de loin.
Jean-François Richer, Vincent Cassel.
Voilà, puisque la dernière fois qu'on a vu Vidocq au cinéma, c'était Pitoff. Et donc là, il revient...
En 2001.
Voilà, en 2001, putain, ça date. Voilà. Qui revient devant la caméra de Jean-François Richer. Alors c'est un film sur lequel moi j'avais je nourrissais beaucoup d'espoir, parce que je me suis dit Jean-François Richer qui va nous faire une sorte de polar d'époque qui serait approprié le personnage de Vidocq. Why not faire avec Vidocq ce qu'il a fait avec Mesrine. Donc j'étais extrêmement enthousiaste. Je me suis dit, voilà, enfin un blockbuster à la française qui a de la gueule, qui a de l'ambition et qui va peut-être vouloir marcher un peu sur les pas, toute proportion gardée de Gangs of New York, peut-être nous faire son Gangs of Paris. Je ne sais pas, les paris étaient ouverts. Et en fait, je me suis retrouvé devant un bon téléfilm France 2.
Ah, carrément.
Ouais, carrément, ouais.
Avec comment si tu viens de doucher mes espoirs là?
Là, c'est bon, c'est bon. Bah écoute, j'arrête. Non, qui démarre plutôt bien avec, si tu veux, quelques parties de mise en scène qui sont intéressantes. C'est-à-dire que tu vois le début qui se passe dans une galère et au sens propre. Hein.
Et il revient du bagne.
Voilà. Et tu te dis là, il y a quelque chose. On va avoir un film qui est un peu cher, qui va être incarné. Ça va être bien. On va avoir un bon divertissement, un bon polar bien rugueux, etc. Et puis, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus plat, de plus en plus aseptisé. Richer essaie quelques petites tentatives de mise en scène, mais tellement maladroite et tellement timide qu'au final, ça le dessert totalement. Et c'est pas assez pas désagréable, mais c'est franchement pas mémorable. Au vu des ambitions, des espoirs qu'on pouvait nourrir sur
le
projet, c'est assez plan-plan, quoi. C'est dommage.
Donc moins bien que le Pitof, alors.
Mais non,
non, dis pas ça, s'il te plaît.
C'est quand même mieux que le Pitof. Plus de gueule que le Pitof.
Là, j'ai revu des images du Pitof il y a pas longtemps, c'est dur.
Moi, j'ai une question. Une pour l'instant. Oula. Attention, on va voir comment tu peux y répondre. Le truc, c'est que pour voir, ça se passe à Paris, pour voir Paris magnifié, beau, le Paris de l'époque, etc., dans le cinéma français, ça n'existe quasiment pas, ça n'arrive jamais. Généralement, il faut voir des films américains pour qu'on ait enfin la France.
Il y a eu le Ducontel quand même l'année dernière.
Oui, Au revoir là-haut.
Oui, mais Au revoir là-haut, mais c'est pas la même époque. Attention, Au revoir là-haut, on est en pleine guerre, alors que Vidocq, c'est un autre siècle.
Voir un Paris ancien, j'entends.
Oui, oui, bien sûr, mais là, on change un corps de siècle. Hein. C'est bien sûr. Donc pour avoir ce Paris, généralement, il faut aller voir un film américain pour qu'on ait le droit à ça. Ou il faut aller voir un film américain pour qu'on ait le droit à des scènes d'action dans Paris comme Mission Impossible, qui est vraiment de la gueule et qui mettent en scène notre ville. Qu'est-ce que ça vaut là-dessus? Parce qu'il me semble qu'à l'origine, c'était une des ambitions aussi de montrer Paris différemment.
Oui, alors là, si tu veux, j'ai pas vu Paris aussi différemment que si je voyais un épisode de Secret d'Histoire.
Ou Nicolas Lefocq.
Je suis très méchant là-dessus. Non, il y a aucune, malheureusement, si tu veux, Paris n'est pas sublimé comme on aurait pu l'espérer, sauf effectivement, il y a un plan final qui est sublime. Et là, tu te dis, si tout le film avait été à cette hauteur, si tout le film avait montré Paris comme ça, comme une ville, j'arrête pas de parler d'incarnation, mais comme une ville vivante, grouillante de toutes ces populations, ça aurait été extrêmement intéressant. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, il y a une belle direction artistique, il y a de très beaux costumes, il y a de beaux décors, mais Paris, on reste très, on n'est pas du tout aérien, on est très terrien, on est très au sol, si tu veux.
Ça, il me semble, alors je dis peut-être une bêtise, hein, je suis désolé, mais je crois que Richer le revendique, hein, clairement.
Ah bah, tant mieux s'il le revendique, mais bon.
D'avoir voulu faire justement.
Oui, mais ça sert pas le récit.
Un film sur les bas-fonds, tu vois aussi.
Oui, non, mais ça sert pas le récit parce que c'est même pas vraiment exploité, si tu veux. En termes de dramaturgie, le film esquisse plein de petites pistes. Mais qui sont juste esquissés. Alors oui, bien sûr, parler des bas-fonds, mais les bas-fonds sont assez clean quand même. Ça manque, encore une fois, ça manque un peu de danger, si je puis dire. Ça manque. C'est pas assez poisseux, quoi.
Pourtant, il y avait l'air d'avoir quand même un travail sur la photo assez poussé, quoi. Donc, quand tu compares à un téléfilm, c'est vachement dur. Donc, faut l'assumer, hein.
Oui, oui, je l'assume parfaitement. Je compare par son ambition, si tu veux, parce que son manque d'ambition, au final. Son manque d'ambition, parce qu'il avait toutes les cartes en main pour te faire un vrai grand film d'époque, un vrai grand polar d'époque. Et au final, ça reste très au ras des pâquerettes, malheureusement.
Et Vincent Cassel, il est comment?
Vincent Cassel, il fait son Vincent Cassel, il est pas mauvais, il est plutôt bon.
Il fait la gueule, il parle comme ça.
Ouais, quoi, c'est
comme d'habitude.
Ça. Bah, t'as l'impression qu'il va foutre quelques coups de boule. Voilà, c'est pas un film mauvais, mais encore une fois, c'est un film qui est décevant au regard des espoirs qui nourrissait. Donc, je pense qu'il faut quand même le voir pour se faire une idée, de se dire que, si tu veux, le cinéma de divertissement français, c'est pas seulement mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. Il y a une alternative. Là, c'est balbutiant, mais bon, ça demande qu'à éclore, quoi, si tu veux.
On le conseille?
Ouais, moi j'ai envie de le voir dans tous les cas.
Faut se faire son opinion.
Dans tous les cas, j'ai très envie de le voir, c'est tourné en France.
Hein. Ouais, ouais, ouais.
Et puis c'est pétri de bonne invention, si tu veux. Donc,
oui, il faut peut-être le soutenir.
Voilà, alors, faut le soutenir. Rassure-moi, tu le titrerais pas quand même, mais qu'est-ce qu'on a fait à Bonaparte quand même?
Pas mal, hein.
Presque, parce que il y a quand même un moment donné, tu vois, il y a un caméo de Bonaparte et
comment tu m'as spoilé là,
ça. Ouais, mais grave, et il y a un caméo de Bonaparte et je me suis dit, il aurait tout aussi bien pu être joué par Christian Clavier, ça m'aurait pas choqué.
J'ai une question, Lucchini.
C'est une question, ça?
Lucchini, point d'interrogation. J'ai dit Lucchini.
Lucchini est sous-exploité.
Ah ouais?
Ouais, Lucchini est sous-exploité, il apparaît deux, trois fois. Mais voilà, c'est pas. Encore une fois.
D'accord, ok.
Ça manque de poids, quoi.
Ça manque de. J'ai cru que t'allais dire autre chose.
De poids? Non, il y a ceux de Vincent Cassel.
Lucchini manque de poids.
Non, quoi. Ils ont tous de très beaux favoris.
C'est ce qu'il faut retenir.
Ok, donc le 19 décembre, on récapitule. Donc il y a Mary Poppins et l'Empereur de Paris. Deux belles sorties quand même pour les fêtes.
Oui,
mine de rien.
Des costumes, quoi, si on aime les costumes.
Voilà, pour les costumes, effectivement. Allez, on passe au 26 décembre avec Bumblebee. C'est parti.
Bah, moi qui aime pas les films de robots, pour une fois c'était très surprenant et ouais, émouvant, drôle, très drôle. Et ouais, j'ai bien accroché, contrairement à ce que je pensais. Celui-là, je pense que c'est mon préféré et franchement, je le reverrai sans hésitation.
Les Transformers, c'était tellement devenu n'importe quoi que celui-là, en fait, on se dit, bah en fait, par rapport à ce qu'on a, les autres Transformers, il est mieux. Et en fait, du coup, lui, pour le coup, il bénéficie de cette comparaison en fait avec les anciens Transformers parce que il est beaucoup plus cadré. Et du coup, c'est comme ça qu'on apprécie plus le film. Là, les combats se voient, on voit vraiment la mise en scène, on la voit. Donc, Travis Knight a fait ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire un Transformers à échelle humaine et pour la famille.
C'était bien. Beaucoup d'action, une petite histoire d'amour, une famille déchirée, un peu de bagarre, on sauve le monde, des militaires, tout ça, tout ça, quoi. L'actrice est Hailee Steinfeld, il me semble. C'est vraiment l'adolescente à laquelle on peut s'identifier, un peu esselée, et voilà, qui trouve un ami. Enfin, oui, je pense qu'on s'attache à elle. Et puis à sa famille, parce qu'elle a une histoire de famille qui est assez compliquée. Et donc, mais c'est un film voilà, où on passe un bon moment. Et je trouve que c'est très bien là, pour ce qui se passe en ce moment, de regarder ce genre de film.
C'était super bien. C'est un film familial dans la lignée des Transformers. On n'est pas déçus. Beaucoup d'humour et de l'action. Ouais, moi, je trouve au contraire que ça s'est recentré sur l'histoire au lieu de partir sur la mise en scène très, très spectaculaire. Et du coup, on s'attache plus aux personnages et c'est peut-être même plus intéressant.
Familial, beaucoup d'humour, de l'action. On s'attache plus aux personnages et c'est peut-être même le plus intéressant. C'est ce que vient de dire Nino à l'instant. Eh bien, j'étais une fois de plus comme Mary Poppins. J'étais parti pour abattre ce Bumblebee et je dois dire que je suis pas loin de penser la même chose que notre ami Nino. Pour autant, petite réserve parce que je suis un défenseur de Michael Bay et le dynamisme que j'avais dans les tout premiers, on va dire le premier Transformers, m'a un petit peu manqué dans celui-ci. Néanmoins, je dois dire que c'est une bonne surprise, signé Travis Knight. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce préquel de Transformers ? Parce que c'est un préquel. C'est une préquelle ou un préquel d'ailleurs ? Je sais pas, je sais jamais.
Un préquel.
Un préquel. Crois.
Et je confirme que tu voulais défoncer le film parce que moi, c'est moi qui l'ai vu en premier de parmi nous quatre. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, hey, les mecs, c'est bien, Bumblebee. Tu m'as fait, ouais, c'est ça.
C'est vrai.
Ouais. Parce qu'on
n'a pas
fois.
L'habitude de t'entendre dire oui, que c'est un film. Hein.
Oui, parce que non, mais surtout, je pense qu'on n'a pas l'habitude que je défende un Transformers. Vous le savez tous autour de cette table, c'est très douloureux les trois premiers.
Même le tout premier.
Ah oui, le tout premier, c'est horrible. Hein. Je ne suis pas un anti Michael Bay, mais non, j'ai vraiment trouvé, moi je suis vraiment pas un addict de la franchise. Il y a que le 4 qui a une à laquelle je trouve matière à défendre un peu.
What? Alors ça c'est incroyable.
J'avais cru entendre ça. Ouais.
Alors c'est bon, moi tu sais quoi, je pose mes écouteurs et je me casse.
Et donc, non, moi j'y suis allé parce que ça m'intéressait, parce que c'est Travis Knight qui reprend la franchise. C'est la première fois qu'un autre réalisateur s'attaque à la franchise Transformers.
Alors précisons
Travis
qui...
Knight, PDG du studio Laika, donc qui font des films d'animation stop motion, Coraline, Paranorman, les Box Trolls, et donc réalisateur du magnifique Kubo et l'armure magique, qui était vraiment un super film sur le storytelling.
Un réalisateur qui vient du monde de l'animation. C'est important pour le film.
Voilà, donc j'étais curieux parce que je me suis dit, mais attends, le mec il a fait un premier film, donc génial, mais c'était un film d'animation stop motion. Là il est sur un film, bon, il y a beaucoup d'animation dans le film puisqu'il y a beaucoup d'effets spéciaux. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça peut donner? Et donc en fait, c'est la première fois qu'on joue sur un ton différent, sur une échelle différente. Alors oui, c'est pas un film où il va y avoir 45 minutes d'action à la fin. On est vraiment sur une échelle beaucoup plus réduite. Il y a trois transformations dans le film, en gros, grosso modo, pendant tout le film. Donc c'est voilà, ce qu'on perd en spectacle, même si les scènes d'action sont très bien foutues. Moi, je trouve que c'est très lisible,
très clair.
C'est très clair. C'est très propre, à défaut d'être visionnaire.
Tonitruante.
Travis Knight, c'est pas John McTiernan, quoi. Mais au moins, le boulot est fait. Et c'est que pour une fois, on va s'intéresser au personnage. Mais vraiment, on va faire une petite histoire. Alors, très axé années 80,
très classique aussi.
Donc, apparemment, l'idée vient de. J'ai lu récemment que l'idée vient de Spielberg.
Tiens donc.
Donc, de revenir aux années 80.
Amblin, coucou.
Et de revenir à un côté Amblin. Donc avec cette extraterrestre qui tombe du ciel pour venir aider un enfant qui a un problème familial. Donc c'est très codifié, c'est très, mais ça fonctionne en fait. Parce que moi c'est vraiment ce que je trouvais qui, ce qu'on perdait avec les Transformers, enfin ce qu'il y avait vraiment jamais eu, c'est un intérêt pour les personnages. C'est vraiment quelque chose qui amène qu'on s'intéresse finalement aux scènes d'action la plupart du temps.
Genre t'as pas eu d'intérêt pour Megan Fox?
Je n'ai pas un intérêt.
Non mais on va pas se mentir,
je n'ai pas un intérêt sentimental pour Megan Fox.
On allait voir Transformers aussi pour ça.
Oui, mais moi je trouvais que le spectacle marchait totalement à vide et était insupportable parce que les personnages étaient insupportables. Là, ils sont quand même, il y a pas de blagues vaseuses.
Ils sont moins hystériques.
Ils sont moins, on n'est pas dans l'hystérie constante. Alors peut-être, on va me dire voilà, c'est peut-être plus formaté. Ok, mais moi j'assume là parce que ce côté, je trouve que ça amène une rigueur que la franchise n'avait pas.
Et de la sincérité.
Et un côté carré qui c'est fait vrai. Que le film vaut pour ce qu'il pour lui seul. Peu importe finalement que il y a eu des opus avant, qu'il va se passer des trucs après ou qu'il y a des choses avant. On retrouve une intro, on est dans Cybertron, on a compris, il y a la guerre. Intro très sympa.
Cette ouverture.
Ouverture magnifique. Hein, franchement,
incroyable. Super ouverture. Surprise. Ouais. Hein.
Parce que moi je te coupe, Julien, mais les premières images sur Cybertron, on était tous les deux dans la salle Thomas, on se demandait ce que pouvait bien donner ce film. Et là, bam, on balance dans Cybertron, donc la planète des Transformers, qui est une planète entièrement robotisée, une espèce de grande ville planète, un peu comme Coruscant dans Star Wars. Et la scène d'action, les effets spéciaux, les images, les lumières, la scène de guerre, ça marche hyper bien, puissant.
Vraiment. Non, mais là, tu vois, Travis Knight, il impose au moins une mise en scène qui est carrée, qui est vraiment propre. Et donc on va nourrir après, donc le film va être moins généreux en action, mais on va développer des personnages, on va nouer une relation. Et moi je trouve qu'on donne beaucoup plus de charisme à Bob Bumby qu'il ne l'avait dans les Michael Bay en fait.
C'est vrai. Il y a cette idée là effectivement. J'ai beaucoup pensé aussi au Géant de Fer.
Bien sûr, qui je pense qu'il est une référence évidente. Hein. Il y a des scènes, c'est impossible de pas y penser. Donc le film est peut-être pas follement original. C'est peut-être pas le plus grand blockbuster qu'on ait vu de tous les temps, mais quand vu l'année assez pauvre qu'on a eu en blockbuster, moi franchement, je crois que je le mets dans ma liste des blockbusters.
Mais si on veut mettre effectivement les gamins de 7-8 ans à Transformers, c'est un très très
bon
film. Et
puis moi je trouve que c'est une vraie bonne porte d'entrée pour l'univers, ou même si on veut pas prolonger, c'est je veux dire voilà, si vous détestez Transformers, jetez quand même un coup d'œil dessus, je pense qu'il y aurait peut-être surprise. Après, je termine sur ça, c'est juste, j'ai un petit bémol sur le film, c'est le côté un peu name dropping années 80. Donc le film se passe dans les années 80 et on te fait référence tout le temps qu'on se passe dans les années 80. Ouais. Je veux dire, il y a 5 références aux Smiths, il y a 3 références à. Ah, ça y est, j'ai perdu.
Dans la chambre de la nana, il y a les posters.
Là, ça fait penser plus à du Stranger Things, tu sais, du name dropping un peu putassier, quoi.
Moi, je trouve ça tellement moins ostentatoire et beaucoup plus harmonieux que. Que dans Stranger Things.
C'est un peu gratuit.
Oui, mais je trouve ça beaucoup plus harmonieux, si tu veux, beaucoup plus sincère, d'une certaine manière, que dans Stranger Things. Stranger Things, les années 80, si tu veux, c'est un fond de commerce. Tandis que là, on est dans un moteur narratif. C'est un décor. Moi, ça me paraît pas aberrant que ça se passe dans les années 80. Je trouve ça totalement logique.
Le problème n'est pas que le film se passe dans les années 80.
Mais même les références, ça m'a pas tellement posé problème, parce que justement, ça te pose le film dans une époque. Et pourquoi une époque aussi, c'est aussi des références. Sauf qu'on te les balance pas à la truelle, on t'en balance pas 15 à la seconde. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus subtil que dans tous ces autres films ou séries qui jouent sur cette nostalgie post-80. On veut nous faire croire que les années 80, c'était super. Non. Et si tu veux, moi, je trouve ça beaucoup plus, encore une fois, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus sincère.
Non, mais je dis pas que c'est pas sincère. Je dis juste que c'est un petit défaut du film que je trouve.
Ça m'a pas
choqué. Je veux dire, quand tu filmes vraiment tu composes ton cadre autour du poster The Thing 3 fois, je dis c'est vraiment minime, mais je dis juste j'adore The Thing,
mais pour Julien c'est important.
Voilà, c'est les détails comptent. Non, mais c'est juste que je veux dire, quand tu composes ton plan pour bien que le spectateur voit ce poster, c'est que est-ce que l'important c'est qu'on voit le poster ou c'est la scène en elle-même qui est importante? Voilà, c'est juste ça.
Oui, mais une époque, mais... c'est aussi sa culture, si tu veux.
Et moi, donc, je vais voir les films pour les posters. Il y a que ça qui m'intéresse.
Non, mais, ouais. Non, mais un film, c'est sa culture, ta chambre.
Mais c'est juste un détail. Hein, moi,
en train de faire un débat sur le poster. Moi, j'aimerais bien savoir quand même. Mais comment tu composais ta chambre quand t'étais gamin? Il y avait des posters. Ça faisait partie de toi, de ton caractère, de ton univers.
Avant, c'était un fond. C'est que tu le vois ou que tu vois pas, ça n'a apporté. Maintenant, on cherche à axer ton regard sur ce poster. Bon. Et ce qui fait que pour te rappeler, c'est les années 80.
C'est beaucoup moins situé. Okay. Justement, moi, quand j'entendais parler du projet, du fait qu'il allait se situer dans les années 80.
Non, faudrait juste que tu nous dises ce que t'as pensé du film, Fatih. Ah
bah écoute, désormais. Moi, j'ai aimé le film parce que je trouve que si tu veux, il était temps que Michael Bay lâche les rênes de Transformers et les file à quelqu'un d'autre parce que Transformers 5, c'était pas possible.
Il est toujours dans le coin, hein, Michael Bay. Attention,
oui,
les producteurs.
Oui, mais tu sentais bien.
Spielberg aussi, d'ailleurs.
Que le cœur était plus, que la franchise arrivait plus à se renouveler. Donc le fait que ce soit réapproprié par quelqu'un d'autre, je trouve ça très sain. Surtout un mec comme Travis Knight, qui a un regard très intéressant sur l'enfance et sur le rapport qu'on peut avoir avec la famille, les totems, tout ça, enfin des tas de choses comme ça que moi j'aime beaucoup. Donc autant si tu veux, de tous les films qu'on a évoqués, moi je trouve que Bumblebee c'est un très bon film de Noël parce que il s'adresse avec une vraie sincérité à son public. Alors effectivement, tu vas pas avoir de sapin, tu vas pas avoir le cadre Noël, ça se passe pas en hiver, etc.
C'est pas du Shane Black.
Non, mais il y a cette espèce de candeur, si tu veux, somme toute enfantine entre guillemets, mais cette espèce de candeur d'innocence qui est retranscrite là dans ce film et qui moi m'a beaucoup plu, qui est sensible. C'est-à-dire que moi je serais père de famille et je voudrais emmener mes gosses voir un film au cinéma là à Noël, je les emmènerais voir Bumblebee. Clairement. Donc voilà, donc moi j'ai aimé ce mélange d'innocence, d'action, etc. C'est à la fois enfantin sans prendre sa cible, son cœur de cible pour des imbéciles. Ça s'adresse aussi un peu à des adultes parce que ça traite de sujets aussi qui peuvent être durs comme la perte, le deuil, les familles recomposées, tout ça. Et non, moi ça m'a fait plaisir de voir ce film. C'est-à-dire que je suis ressorti avec un petit sourire béat, tout con, tout couillon. Ça faisait longtemps que
j'avais envie d'aller t'acheter une petite figurine.
Ben, exactement, je crois que je l'ai fait. Hein. Je suis allé au jouet club du coin et ça faisait longtemps qu'un Transformers ou qu'un film en tout cas m'avait pas fait cet effet. Donc vraiment très très bon divertissement, hautement recommandable. Pierre, à toi.
Allez, passons aux choses sérieuses.
Oui.
Non, pardon. Non, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors je tiens juste à préciser qu'on l'a vu avec Thomas à la Projet Europresse et puis nous on a eu une figurine offerte, c'est tout. C'est
Moi je l'ai pas eu moi.
Ce podcast n'est pas sponsorisé par Hasbro. Voilà, je suis reparti avec un Bumblebee. Enfin bon, bref.
Ouais, enfin bon, ça c'est un truc de nouveau riche, quoi.
Des influenceurs, les gars, attention. Donc je suis acheté. Voilà. Non, j'ai trouvé. Moi personnellement, je suis pas du tout. Alors j'ai revu ma copie un petit peu sur Michael Bay, mais je suis pas du tout fan de la franchise Transformers. Alors j'ai pas vu le 1 qui sort en 2007. Il me semble, je l'ai pas vu depuis des années. D'ailleurs, probablement depuis 2007. Donc j'en ai peu de souvenirs. Mais c'est vraiment une franchise que j'aime pas tellement. Ça m'intéresse pas des masses. Même quand j'étais gamin, le dessin animé me plaisait assez moyennement et j'avais pas de jouet Transformers. Simplement, ce que je veux dire sur ce film là c'est que premièrement ça m'a vraiment plu, que Travis Knight, je trouve que son bagage du cinéma d'animation, il l'a su l'apporter, l'incorporer dans la franchise Transformers, et on voit, c'est vraiment traduit à l'image, c'est-à-dire que ce personnage de Bumblebee dans son animation, dans son attitude, dans sa pose, dans le poids, dans les expressions, il y a quelque chose de nettement supérieur à ce que faisait pour moi Michael Bay le personnage de Bumblebee. Je trouve qu'autrefois il avait une direction artistique et un design qui était globalement assez passable, enfin il y avait rien que je retenais particulièrement. Là, il a un visage très expressif avec des yeux presque. Et d'ailleurs, la direction artistique, je trouve qu'elle a fait un pas en avant vers quelque chose qui moi me plaît nettement plus. Et même si j'étais pas fan du dessin animé ou des jouets, je trouve que là, ils ressemblent vraiment à des figurines.
Ils ont pris le look des jouets des années 80.
Voilà, entre guillemets, simplifié le design de Michael Bay qui est très complexe, très mécanique,
très rutilant
pour aller quelque chose de vraiment, voilà, des figurines en action sur grand écran, et je trouve que ça marche très bien. Il y a même dans cette scène sur Cybertron au tout début un personnage avec des ailes donc un personnage de Decepticon, c'est un personnage de méchant qui est beau, qui est vraiment beau, on dirait presque un robot d'animé japonais. Il est très très beau, ça fonctionne du feu de dieu. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve que sur le personnage de Bumblebee, ça marche très très bien. Il y a plein de petits détails, la manière dont il secoue les mains, les pieds, dont il bouge les yeux, tout ça c'était pas présent pour moi dans les anciens films Transformers. Il lui donne de la vie, il lui donne du corps. Ensuite, c'est un Travis Knight, il vient du cinéma d'animation Laika, donc voilà, des très beaux films d'animation stop motion qui sont généralement, même s'il y a plusieurs niveaux de lecture, destinés à un public assez jeune. Et ce Transformers s'adresse clairement à un public beaucoup plus jeune, parce que les films de Michael Bay allaient clairement dans le divertissement adolescent, les grosses bagnoles, les nanas à poil, l'humour un peu beauf, limite misogyne et homophobe.
Des ados qui n'y allaient pas avec leurs parents.
Voilà, qui n'y allaient pas avec leurs parents. Là, c'est enfin un film déjà moins beauf, et surtout un film où les parents peuvent amener leurs enfants. Eux, ils peuvent se marrer. Les enfants, à mon avis, vont être aux anges, avoir des étoiles plein les yeux. Et tu sous-entendais qu'on pouvait voir un petit peu, à la limite, un petit côté E.T. dans ce Bumblebee qui arrive dans cette famille, cet extraterrestre venu sur Terre. Moi, j'ai vraiment vu Bumblebee comme R2-D2. Non seulement il joue beaucoup sur les sons, parce que Bumblebee est privé de la parole au tout début du film, parce que c'est un personnage qui n'a pas de voix dans les Transformers, il s'exprime avec des extraits radio, des extraits télévisés. Là, il lui donne une voix, puis finalement, il la perd. Et du coup, on a ce personnage qui s'exprime par des sons, qui a ses lumières dans les yeux, comme R2-D2 qui bouge.
Ouais, c'est vrai.
On a aussi un passage où il projette un hologramme.
Ouais, c'est ça, il renferme un message.
Voilà, il contient un message de la résistance, exactement comme dans Star Wars. Donc je pense qu'il y a cette volonté de revenir à ce sentiment d'aventure. On va retourner dans Star Wars, on va retourner peut-être chez Spielberg, de donner ce souffle comme ça plus
extraordinaire,
plus sain, cette espèce de côté rêveur qui manquait à Transformers, et que du coup on ramène pour un public beaucoup plus jeune. Et là, pour moi, ça marche vraiment mieux. Alors, sur le design, je trouve que les deux personnages de méchants, ces deux Decepticons qui sont sur Terre, sont peut-être un petit peu moins réussis. Ils sont pas aussi mémorables, mais ça marche quand même assez bien. Il y a des scènes d'action très très claires où vraiment on comprend tout ce qui se passe, et c'est ce que je disais à Thomas. On en discutait. On en discutait à la sortie de la salle. Effectivement, peut-être que dans l'image, il y a moins de panache que chez Michael Bay. Il y a peut-être moins de personnalité. Peut-être qu'on reconnaît pas un style particulier, mais
il y a moins de contre-plongée.
Ces scènes d'action sont très claires, et à chaque fois qu'on a un moment comme ça, dramatique, de combat, etc., on est toujours dans un décor différent dont on tire parti à 100%. On se passe toujours, alors ça se passe dans la forêt, puis dans une décharge, puis
sur les docks,
etc. Du coup, il va toujours trouver ce qui peut faire mouche, ce qu'on peut utiliser, une grue, un camion, etc.
Un peu à la Brad Bird, finalement.
Voilà, il tire parti de son environnement. Environnement qui est filmé pas en totale image de synthèse comme les derniers Transformers, mais dans des décors réels, et il y a toujours une interaction entre les personnages humains et les personnages de robots qui sont en image de synthèse. Donc là-dessus, je trouve que c'est intelligent, mais il ne faut pas oublier, pour moi, l'un des gros points noirs de ce film, et pourtant j'ai de la sympathie pour ce comédien.
Laisse-le finir.
Mais John Cena, j'imagine,
ouais, qui est un des points faibles du film.
John Cena, il faut le dire, il est pas dans le même film. Hein. Il joue, lui, dans un nanar, ouais, alors que les autres comédiens jouent dans un chouette film d'animation, d'aventure pour enfants.
Il est pas si présent que ça dans le film, je trouve.
Il est pas si présent que ça. Il joue quand même.
Il joue pas bien.
Son John Cena, ça a jamais été un bon acteur. Excuse-moi.
C'est très gênant.
Il avait un tout petit rôle, mais il était dans The Wall de Doug Liman.
Oui.
Il était sympa.
Alors, ce que je t'avais dit, c'est qu'il fait bouffon. Mais en fait,
il fait un petit peu bouffon. Moi, ce que j'ai pu voir là, alors est-ce que c'est mon interprétation, j'en sais rien. Mais étant donné que c'est un film qui est beaucoup plus jeune public.
C'est ça, voilà.
John Cena, finalement, le réalisateur l'a mis à la hauteur de son très jeune public, ce qui fait qu'il représente, parce qu'au début, c'est une espèce d'antagoniste. Au final, il ne représente pas un méchant très méchant, il ne fait pas très très peur, il désamorce un petit peu comme ça le côté un peu effrayant, parce qu'il joue un militaire très sérieux. Et du coup, on peut se dire que c'est peut-être ça le parti pris derrière.
Mais effectivement, les gamins de 7-8 ans qui verront cette espèce de colosse en train de faire des têtes un peu bizarres et...
Je pense qu'il y a aussi une volonté de Travis Knight de s'inscrire clairement dans une autre dynamique que celle de Michael Bay. C'est-à-dire qu'on commence par une scène sur Cybertron qui est très puissante et très forte. Ensuite, on arrive sur Terre par une scène avec des flingues dans la forêt, avec des militaires. Et là, désolé pour le spoil, mais c'est dans les 5 premières minutes du film,
Finalement, on se rend compte que non, c'est pas de la guerre. En fait, c'est juste des mecs qui sont en train de jouer au paintball. Et là, pour moi, je sais pas si je surinterprète, mais c'est presque une manière de dire pour le réalisateur, non, on n'est plus chez Michael Bay, on n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas là entre soldats, parce que Michael Bay aime beaucoup les personnages de soldats. On est là pour s'amuser, c'est juste du paintball.
Je pense que c'est une réponse à Michael Bay, quelque part.
Genre, j'en sais rien. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas une petite note de la part de Travis Knight, tu vois.
Possible.
Et finalement, ce film est beaucoup plus grand public, beaucoup plus simple et beaucoup plus humain à échelle réduite sur les personnages, avec Bumblebee qui a aussi des interactions dans cette maison avec la famille. Ça veut pas dire que le film est parfait, ça veut pas dire qu'à certains moments, on peut pas reprocher, notamment Bumblebee qui détruit la maison des parents. Il y a des réactions, je trouve que la mère joue pas très bien, etc. Il y a des soucis.
Le beau-père,
excellent.
On devrait faire un podcast spécial beau-père parce qu'il y a tellement de beaux-pères qui jouent mal dans les films qu'on a chroniqués.
Mais voilà, je trouve que moi qui n'aime pas Transformers, j'ai passé un très bon moment. Je trouvais que c'était un beau film, qui a une belle musique. Et je conseille tous les papas et les mamans d'amener leurs enfants voir ça. Et à mon avis, ils vont passer un chouette moment.
Disons que le film n'ambitionne pas d'être un Uber divertissement à la Michael Bay. Il est ce qu'il perd en spectaculaire, il le gagne en cœur. Et c'est cette espèce.
Oh, bravo.
Oh là là, il a une
poète.
Il la garde pendant des semaines, celle-là aussi. Hein.
Ouais. Je ne garde jamais rien pendant des semaines. Et je trouve qu'effectivement, c'est aussi cette simplicité, cette candeur qu'on parlait et qui est participer aussi au côté un peu bicéphale du premier Transformers, parce qu'il y avait des côtés très bon enfant que j'aimais bien dans le premier Transformers, que là je retrouve, mais de manière beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus simple, et ça participe énormément au charme du film. Je trouve que c'est ça qu'on pourrait dire du film, c'est que c'est un film qui a du charme.
Ah bah on peut terminer là-dessus.
Et bah voilà, très bien. Allez, merci à Elodie, Joao, Romain, Vincent, Philippe, Assina, Hélène, Alice, Dylan, Alan, Dafa et Nino pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de Séance Radio. Ça fait beaucoup de monde à remercier.
Ouais,
mais vraiment, vraiment
que des fans.
Grand, grand merci. Également, un petit merci à un Twitos qui nous a fait une petite vanne concernant le précédent podcast sur Astérix et Mowgli qu'on avait baptisé Image de Saint-X. Et il avait fait une petite vanne qui s'appelle @jacasse. Il nous a fait une petite vanne en rebaptisant le podcast SFX.
Oh, pourquoi pas, oui.
Pas mal, hein. Donc on l'applaudit, merci à lui. Pour nous retrouver, c'est très simple, sur toutes les applis podcast, évidemment, sur SoundCloud également et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, laissez-nous des étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Sur Twitter également, pour nous suivre, @fin2_séance, #fin de séance. Voilà, tout est dit. Merci les amis.
Merci à toi.
Merci Pierre.
Bien de rien. Je vais reprendre ma phrase fétiche, mais je n'ai fait que mon devoir.
Merci Ilan.
Merci à toi.
Merci Julien.
De rien.
Julien dans la simplicité, toujours.
En toute modestie. Efficace et direct, tu vois.
Moi, je suis comme ça.
On vous souhaite de très bonnes fêtes.
De bonnes fêtes, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. De bons repas de Noël.
Ouais.
Si jamais vous fêtez ça.
Et de super cadeaux.
Et de bons films.
Et de bons films.
Exactement. Voilà, vous avez notre petit calendrier de l'Avent. Donc, on vous accompagne jusqu'à cette fin décembre. N'hésitez pas, encore une fois, à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux. On est là, présent, il n'y a pas de problème.
De nous envoyer de l'argent.
Aussi.
Si vous avez envie, pour Noël.
Voilà,
nos étrennes.
C'est des podcasts du cœur.
Nos étrennes, bien vues.
Ben oui.
Très bien. On vous fait de très très gros bisous. On vous dit à très vite, évidemment.
Non, c'est très bien.
Tout est dit, hein. À très bientôt.
À bientôt.
Gros bisous.
Salut.
Bonne fête.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.